à la découverte du géoparc Terre d'Hérault. Une série proposée par l'ARA, l'Assemblée régionale des radios associatives d'Occitanie, avec le soutien du département de l'Hérault.
Le département de l'Hérault, qui a de multiples atouts et de multiples paysages, dépose cette année une candidature pour avoir le label mondial de géoparc de l'UNESCO. Nous serons probablement le seul de France à candidater au niveau international et nous espérons bien obtenir ce label.
Kléber Mesquida, président du département de l'Hérault. Jacques Rigaud, conseiller départemental de l'Hérault pour le canton de Lodève.
Je pense qu'elle a fortes chances de réussir puisqu'il y a une vraie volonté du département, la volonté du président, la volonté de tous les élus, la volonté de la population. Je crois que la population est en train de se l'approprier. Je crois qu'il y a toutes les chances de réussir et d'obtenir ce label.
Nous avons, lorsqu'on regarde le territoire impacté, 2044 km², parce qu'on ne peut pas aller au-delà, sinon nous avons d'autres sites hors de ces 2000 km², et il y a 112 communes concernées, 112 communes de l'Hérault concernées dans ce périmètre de 2000 km². Donc nous avons souhaité, suite à ce constat d'être richesse géologique, de candidater au label mondial de l'UNESCO. Sachant qu'aujourd'hui, sur ce label mondial, il y en a dans 48 pays et il y a 213 géoparcs sur le monde. Nous avons reçu cet été 2 évaluateurs nationaux. Donc, ils nous ont validé notre démarche. Et de ce fait-là, il va y avoir un passage en novembre 2024. Nous devons déposer le dossier. En été 2025, il y aura des évaluateurs mondiaux. Et puis, en 2026, il y aura la délibération de l'UNESCO qui décidera si nous avons ce label-là. Quand on va candidater, il faut que sur le territoire, il y ait une organisation aussi et un cheminement et un circuit qui permettent à ceux qui le souhaitent de visiter les géosites.
Un géoparc, c'est un territoire qui est labellisé par l'UNESCO pour la richesse de ses contenus géologiques.
Gaëlle Lévesque, conseillère départementale de l'Hérault pour le canton de Lodève et maire de Lodève.
On est sur une zone, hein, toutes ces 112 communes qui sont concernées par ce géoparc Terre d'Hérault comportent vraiment des richesses géologiques assez exemplaires. Et le but d'un géoparc, c'est déjà de mettre en lumière cette richesse géologique, mais aussi de créer des liens entre des partenaires, des prestataires, des collectivités, des sites extraordinaires. Et à travers ce lien-là, on entretient la connaissance de la terre, du sous-sol et de ces richesses-là. Ce sont des références aussi, puisque sur le géoparc Terre d'Hérault, on a plusieurs sites qui sont des références mondiales pour une datation géologique de la terre. Et ça permet d'exprimer et de valoriser aux yeux du grand public. Et c'est très pédagogique, mais c'est aussi une manière de dire qu'on est sur un territoire d'exception. Sur cette zone du géoparc Terre d'Hérault, on retrace 540 millions d'années.
Le musée de Lodève fait partie des points forts du géoparc, puisque lorsque l'on visite ce musée-là, qui est bien placé en centre-ville, avec des aménagements qui sont particuliers et exemplaires, lorsque l'on voit toutes les expositions qui sont faites de roches, de minéraux, de photos, d'historiques qui remontent à 540 millions d'années. Donc c'est quand même un élément très fort. Et bien sûr, le musée de Lodève fait partie d'une des assises de la démarche géoparc.
Kléber Mesquida, président du département de l'Hérault. Gaëlle Lévesque, conseillère départementale de l'Hérault pour le canton de Lodève et maire de Lodève. Jacques Rigaud, conseiller départemental de l'Hérault pour le canton de Lodève.
Bonjour, je m'appelle Stéphane Fouché. Je travaille au musée de Lodève en tant que chargé des collections sciences de la Terre et je suis aussi vulgarisateur des sciences et précisément géomédiateur pour le géoparc Terre d'Hérault. Un géomédiateur, dans le cas du géoparc, ça va être de faire découvrir ce qu'est la géologie sur ce territoire, sur la partie du géoparc, le lac du Salagou et ses environs, le Larzac, la montagne noire et la vallée de l'Hérault, et donc de faire découvrir cette richesse géologique et paléontologique qui affleure sur le terrain. Cette première salle parle des 200 premiers millions d'années qui correspond à une période marine qui démarre il y a 540 millions d'années et qui va s'arrêter avec l'écrasement de tous les continents les uns contre les autres pour former le continent unique qui est la Pangée et la chaîne hercynienne dont le témoin aujourd'hui est la montagne noire et le massif central. Le musée de l'Odève, justement, a été rénové en 2018 et son parcours Traces du vivant regroupe les collections de paléontologie et de géologie qui ont été prélevées sur ce territoire et précisément à l'intérieur même du géoparc. Et donc on va retrouver des témoins issus de nos paysages, des fossiles, des roches qui nous racontent 540 millions d'années d'histoire de la vie, des animaux et des plantes disparues, soit des fougères qui sont aujourd'hui découvertes vers Grèce-Sac, soit des traces d'animaux que l'on peut retrouver aujourd'hui près de la Liode, soit des poissons que l'on peut retrouver vers Saint-Privat, tout un tas de fossiles et d'animaux. Et grâce à ces roches et ces témoins mis en vitrine, on a comme ça une continuité des paysages et des environnements disparus. Tout ça mis en médiation et avec des multimédias qui vont expliquer aux visiteurs la dérive des continents, la manière dont sont classés les animaux, les grandes crises qui ont traversé l'histoire de la vie, l'intérêt aussi que ça a sur notre territoire, les endroits à découvrir, comment les humains ont exploité ces richesses minérales, comment on a trouvé du pétrole, pourquoi on n'a plus de pétrole, comment on a exploité l'uranium, comment on fabrique des cathédrales en pierre de grès, etc., etc. Le musée raconte toutes ces histoires humaines et géologiques dans son parcours. Et donc notre enjeu, ça a été d'essayer de rendre accessible la géologie et la paléontologie à tout le monde, dès 3 ans. Et donc la muséographie utilise des grands paysages colorés qui vont, séquencer le temps, mais aussi séquencer les salles muséographiques. Donc une pièce est représentée par un paysage d'une seule couleur, et la pièce suivante, on change d'époque géologique, on change de couleur, on change de paysage, et ainsi de suite dans tout le parcours. Et l'objectif est donc de permettre à un enfant qui, par exemple, dès 3 ans, on est capable d'arriver à dire c'est bleu, c'est vert, là c'est la mer, là c'est la forêt. On voit bien que les formes d'animaux et de plantes changent, même si on ne sait pas donner leur nom scientifique ou même si on confond un peu tout. Peu importe, on voit le changement, et donc à partir de là, à partir de ces grandes frises qui font 2 mètres à 3 mètres de haut selon les hauteurs de murs, et souvent jusqu'à 7 ou 8 mètres de large, on va pouvoir avoir une vision des paysages. Les couleurs changent, les paysages changent, et donc les enfants, sans parler de millions d'années, sans parler de noms en latin, vont découvrir ce qu'est l'évolution au cours du temps. Et à partir de ces frises qu'on va retrouver dans des films qui vont être repris, les couleurs vont être reprises dans les vitrines, les étiquettes qui encadrent les objets vont être reprises par la couleur. Donc du coup, le graphisme est vraiment au service d'une compréhension de ces sujets. Et bien sûr, il n'y en a pas que pour les plus jeunes. L'amateur passionné et même l'étudiant, l'universitaire, va pouvoir retrouver des documents comme un log stratigraphique, une coupe géologique, une carte géologique, des textes en français, des textes en anglais, des étiquettes avec les noms en latin, etc. La carte que nous utilisons pour parler de ce territoire géologique est légèrement plus petite que le territoire du géoparc. Le musée était conçu pour être un musée de territoire, donc à proximité de l'Odève, mais nous allons quand même jusqu'à Grèce-Sac, nous allons jusqu'à Bédarieux, nous allons vers le lac du Salagou, nous allons sur le Larzac. Mais c'est vrai que nous n'allons pas jusqu'au Caroux, par exemple, qui est pourtant représenté par ces roches dans les vitrines, mais on n'a pas intégré entièrement la montagne noire, tandis que le territoire du géoparc s'étale un peu plus, recouvre un peu plus de surface, mais le cœur du géoparc est la carte de géologie du musée que nous avons exploité. L'idée de ce parcours, c'est de faire découvrir ce patrimoine, donc issu du territoire, récolté sur le territoire, et de le rendre accessible. Donc on a aussi rajouté des multimédias, des films, des simples films que l'on peut voir sur une grande salle de cinéma, un écran qui fait 13 mètres de longueur, dans lequel on voit ces paysages se succéder au cours du temps, où on voit la Terre, comment elle s'est transformée pendant des millions d'années, qui nous permet d'appréhender cette dérive des continents. On va retrouver des films qui nous montrent comment les roches en profondeur remontent et provoquent ces déplacements. On va retrouver des films qui montrent comment les animaux sont regroupés entre eux, comment ils traversent les crises biologiques. On va retrouver une carte interactive qui nous permet de constater à quel point, quand les animaux de la Lyode étaient vivants, ils se retrouvaient non pas ici sur ce territoire, mais à hauteur de l'équateur, et ainsi de suite. Il y a vraiment beaucoup d'informations, qu'elles soient numériques, qu'elles soient figées, qu'elles soient textuelles, qui nous permettent d'appréhender toutes ces collections qui nous sont présentées. Il y a des collections d'une valeur internationale et nationale qui sont exposées ou qui sont dans les réserves du musée. Alors, si on recule dans le temps, il y a les fameux trilobites de la Montagne Noire qui ont été les premières richesses connues sur le territoire. On n'était pas nés, nous tous. Ce sont vraiment les premiers paléontologues de l'Université de Montpellier et les grands amateurs qui ont fait cette découverte il y a plus de 150 ans presque. Puis, si on revient dans les découvertes, nous avons les traces qui sont retrouvées autour du lac du Salagou. Beaucoup d'empreintes de pas ont été étudiées, dont le site de la Lyode est un des éléments emblématiques, mais aussi, lors des travaux de prospection sur l'uranium, une dalle près de la Kogema, actuellement Orano, a été trouvée, où on voit des empreintes d'animaux qui ont été mis en réalité augmentée dans le musée. Et puis, il y a aussi toujours dans cette période qu'on appelle le Permien, dans cette ruffe rouge, il y a les ailes d'insectes qui ont été trouvées par Jean Lapéry et son fils, qui est donc une collection qui a une envergure internationale et qui fait l'objet de demandes régulières. Et il y a eu plus de 60 espèces de nouveaux insectes décrits alors qu'aucune n'était connue jusqu'à la première aile découverte par Jean. Et pour terminer avec les découvertes, il y en a d'autres, mais au moins pour en citer que les sommets, il y a eu récemment des découvertes de peaux d'ichthyosaures. Donc on est à ce moment-là au temps des dinosaures, dans le Jurassique marin. Et cet animal qui a des allures de dauphin, mais pas du tout un ancêtre du dauphin, donc qui est un reptile marin, mais pas un dinosaure non plus, on a retrouvé sa peau fossilisée collée à ses os aussi fossilisés. Et il est en cours d'études scientifiques, justement. On espère pouvoir analyser la roche et obtenir la couleur des pigments de cette peau. On ne retrouve que 0,1% en fait des traces de vie. Et les géologues, après, avec l'étude des roches, nous permettent de reconstituer les paysages, la manière dont évoluent les vallées, les montagnes. Donc à partir de ces données recueillies, on ne peut que montrer que des fragments de ce temps qui s'est écoulé, donc en présentant presque des flashs finalement, puisque même si notre paysage reconstitué a peut-être des possibilités d'avoir existé pendant quelques milliers d'années, ou en tenant compte des variations interne en fait d'un paysage, changement de la rivière, changement un petit peu de la végétation, mais ça reste toujours une vallée, etc. On n'est pas dans une continuité qui nous permettrait de dire tel jour, telle heure, puis tel jour suivant, puis telle semaine suivante. Non, on fait des bonds en millions chaque fois, car c'est le principe de la conservation en géologie. Les roches conservent des éléments disparus il y a des millions d'années. Déjà, on n'a pas tout retrouvé. Certains ont été érodés entre-temps. Et donc, effectivement, c'est une continuité telle qu'elle est présentée, mais le visiteur comprendra bien qu'entre deux paysages, il se passe des fois 5, 15, 20 millions d'années, et que l'histoire continue bien, puisque si on a quelques millions d'années plus tard une nouvelle image d'un paysage, c'est qu'entre-temps, les choses ont aussi bougé, évolué. Donc c'est vrai que le visiteur peut appréhender cette notion de « je n'ai pas tout, mais j'ai un point de départ et un point d'arrivée, donc je dois bien accepter que tout ce qui n'est pas visible dans l'expo ou non découvert dans la nature a pu exister et que rien ne sort de nulle part. » La paléontologie et la géologie sont des disciplines du témoin retrouvé, donc avec une roche et des fossiles retrouvés, oui, on va décrire ce passé, et à chaque fois qu'il y a une nouvelle découverte, il y a une remise à jour, en fait, des informations. Donc, soit ça devient juste complémentaire, soit ça va venir corriger ce qui a été dit et donc rendre les données de 5 ou 20 ans obsolètes pour les rendre actuelles. Et donc, effectivement, ce sont des disciplines qui sont dynamiques. Mais cette dynamique est basée sur les notions de découverte du matériel ou du temps de recherche qu'on peut consacrer à réétudier ce matériel. Et donc, ce n'est pas du tout parce qu'on parle du passé qu'on est dans un monde figé. Au contraire, il y a la recherche est en constant travail, et donc les données régulièrement arrivent. Et effectivement, tout l'enjeu du musée, ça va être de continuer à suivre l'actualité scientifique et de se maintenir dans un contenu non obsolète, donc toujours d'actualité et mis à jour au fur et à mesure du temps. En plus de la médiation, des ateliers, de l'exposition, de la présentation de ce patrimoine ici du Géoparc, il y a un pan de recherche auquel participe le musée. On s'associe avec donc des projets de recherche qui touchent soit les ruffes du Salagou, soit justement, on parlait des ichthyosaures du Jurassique. Et donc, on aide les chercheurs sur ce territoire à enrichir leurs connaissances, et nous, ça nous permet d'acquérir aussi de nouvelles collections et donc d'améliorer la connaissance de ce patrimoine et de le mettre à jour grâce aux fouilles qui sont programmées entre équipes de chercheurs et musées.
Stéphane Fouché du musée de Lodève, chargé des collections Sciences de la Terre, vulgarisateur des sciences et géomédiateur pour le Géoparc Terre d'Hérault.
À la découverte du Géoparc Terre d'Hérault.
Sur l'espace qui est consacré aux sciences de la Terre, on a tout un niveau du musée de l'Odève qui est consacré à ça. On va voir ces 540 millions d'années qui vont défiler sous nos yeux à travers tous les fossiles qui ont été trouvés autour de l'Odève, hein, mais on retrouve la zone du Géoparc Terre d'Hérault, en fait, sur tous les fossiles qui ont été trouvés. Et chaque site va raconter une histoire, et on a replacé dans la frise du temps chacun des fossiles, et on peut retracer ces 540 millions d'années et visualiser comment était le monde à ce moment-là. Est-ce qu'on était sous l'eau? Est-ce qu'on était sur Terre? Quelle était la végétation? Quelle était la faune qui était présente à ce moment-là? Et c'est un voyage qui est extraordinaire.
Gaëlle Lévesque, conseillère départementale de l'Hérault pour le canton de l'Odève et maire de l'Odève.
Ce qu'on peut mettre en avant, c'est toute la zone qui est autour du lac du Salagou. Là, on est sur le Permien, qui est une ère géologique qui est quand même qu'on retrouve finalement pas à tant d'endroits que ça. Et la zone autour du lac du Salagou est vraiment assez remarquable. Elle est, par exemple, à mettre en regard avec le Rougier de Camarès dans l'Aveyron, où on retrouve la même typologie de roche et cette singularité du rouge de la terre et de cette roche qui s'effrite aussi. Et je sais qu'il y a quand même beaucoup de gens qui font le parallèle avec le Grand Canyon, avec ça crée vraiment des territoires qui sont singuliers, qui sont remarquables. Et quand on est au bord du Salagou, qui a le rouge de la terre, le bleu du ciel, le bleu du lac, le vert de la végétation, ça marque les esprits et ça marque les gens. Il y a d'anciens volcans c'est tous ces mouvements de roches, ces concrétions de roches, je pense par exemple aux tuyaux d'orgue qu'on trouve au bord du Salagou, où on est vraiment dans la matérialisation de mouvements de plaques combinés avec la force des volcans. Toute cette histoire-là, l'histoire des plaques tectoniques et l'histoire, il y a des moments, l'Odève a été sous l'eau. Et comment est-ce qu'on envisage ça aujourd'hui? On peut l'envisager si on va au musée de l'Odève. La première salle qui propose vraiment la frise du temps. On remonte 540 millions d'années avec la vision de où se situe l'Odève sur la Terre par rapport aux différentes plaques et à leurs mouvements.
des grands espaces. Quand je pars de Ganges et que j'arrive sur un plateau, quand on voit toute cette terre aride à perte de vue, on se dit comment des hommes ont pu vivre sur tout ce territoire.
Jacques Rigaud, conseiller départemental de l'Hérault pour le canton de Lodève.
C'est le plateau de quand j'arrive de Saint-Maurice-Navacelles et que je rejoins Saint-Pierre-de-la-Fage. Puis il y a un plateau qui est aussi fabuleux, c'est quand on part de Saint-Pierre-de-la-Fage jusqu'au Quélard. On voit bien sûr qu'il y a de la vie, puisqu'il y a également des vaches ou des chevaux, mais on voit très peu de fermes. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui sont ancrés dans ces terres depuis des siècles et qui continuent à y travailler. Je trouve ça formidable. Et puis après, je crois que sur le plan touristique, il y a le Moulin de la Fousse, qui est un endroit fabuleux. Et quand on arrive, c'est extraordinaire. Rien que le bruit de la vis, le bruit de la vis, cette résurgence qui vous assourdit tellement qu'elle est puissante. On se demande comment cette eau peut sortir aussi fort et aussi claire et aussi fraîche. C'est important de le découvrir. Et puis bien sûr, quand vous passez de l'autre côté de la vis, vous arrivez bien sûr à Navacelles. Et je crois que Navacelles, il faut l'admirer d'en haut, pas d'en bas, parce que d'en bas, on le découvre pas. Il faut vraiment être ou à la Baume-Auriole ou sur la commune de Blandas pour pouvoir admirer justement le cirque Navacelles.
C'est un lieu extraordinaire parce qu'il s'est formé au fil du temps. On a le plateau du Larzac, qui est de formation karstique, et l'eau, le travail de l'eau. Jacques Rigaud parlait de la rivière, la vis. C'est la vis qui, au fil du temps, a creusé la roche. Et la rivière avait un certain cours. Et à un moment, ce cours a changé et c'est ce qui a créé ce qu'on appelle la coquille d'huître qu'on trouve au centre du cirque de Navacelles et qui est le fruit de ce creusement de la roche par l'eau. Et c'est fabuleux parce qu'on est sur des temporalités qui sont quand même assez difficilement envisageables pour nous, simples humains. Mais à l'échelle de la Terre, c'est cette transformation qui s'est faite de la rencontre de l'eau et l'eau qui a rencontré la roche et la roche qui s'est érodée au fil du temps. On peut parler du pastoralisme, par exemple. Tout le plateau du Larzac et même au-delà est reconnu par rapport au pastoralisme et intégré dans le périmètre du bien UNESCO Cossé-Cévennes. Et donc cette singularité-là de vie des habitants et de l'élevage et tout ça, ça vient de la terre, on va dire à la fois la pauvreté de la terre, l'aridité qui a amené à plus d'élevage que de culture, que de maraîchage. Et en fait, c'est la roche et l'identité de la terre qui va créer l'activité qu'on va pouvoir avoir dessus et qui va dessiner le paysage et créer ces images-là qu'on connaît bien, mais c'est aussi les possibilités d'un territoire.
Cet épisode de la série À la découverte du géoparc Terre d'Hérault a été réalisé par Radio Lodève avec la participation de Radio Languedoc et Radio Escapade. Une production de l'ARA, l'Assemblée régionale des radios associatives d'Occitanie, avec le soutien du département de l'Hérault.